Les Nuits de France Culture. Alban Penaranda, Mathias Le Gargasson, Antoine Dulster, Hassan M. Béchour. Nous sommes ensemble jusqu'à 4h du matin.
Bonsoir. Au sommaire cette nuit, dans un instant, les shérifs, les hors-la-loi et les durs à cuire. Quatrième des 5 épisodes de la fabuleuse épopée du Far West, proposée par Pamela Titel en 1980. Une nuit magnétique qui nous rappelle qu'il y a parfois un monde entre la réalité et la légende. Vers 1h25, François Truffaut, invité à parler de son film La Chambre verte par Claude Jean-Philippe dans le cinéma des cinéastes en 1978. À 2h15, Gillette Ziegler, auteur de L'histoire secrète de Paris, et Jacques Yonnet, auteur de Enchantement sur Paris, parlent de l'histoire de Paris en 1967. Et enfin, aux alentours de 2h55, Géographie politique de l'Amérique du Sud par André Siegfried, diffusé en 1953 sur la chaîne nationale. Vous pouvez télécharger et réécouter ces émissions à la page des nuits, sur le site et sur l'application Radio France. Une très bonne nuit à tous, à l'écoute de France Culture.
Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le Far West, le Wild West, est un monde violent, chaotique, dans lequel il faut bien mettre un peu d'ordre de temps en temps. C'est alors qu'intervient le shérif. Les hommes à étoiles s'appelaient Wild Bill Hickok, Bill le Sauvage, Wyatt Earp ou Pat Garrett. Leurs histoires ont donné naissance à quelques films inoubliables. Mais là encore, le quatrième épisode que les Nuits Magnétiques consacraient en 1980 à la fabuleuse épopée du Far West nous rappelle qu'il y a parfois un monde entre la réalité et la légende. Sur la frontière, au milieu des outlaws, des cow-boys, des joueurs, des buveurs, des éleveurs, des chercheurs d'or et autres desperados, faire régner l'ordre ne consistait pas forcément à appliquer la loi et encore moins à faire triompher la justice. Il s'agissait bien souvent d'opposer à la violence une autre violence ou même de pactiser avec elle. Conservons quand même en mémoire l'inaltérable image du shérif Chance, incarné par John Wayne dans Rio Bravo, qui, avec le concours de Dude, Stumpy et Colorado, aura réussi à tenir tête jusqu'au bout aux affreux frères Burdett. Les shérifs, les hors-la-loi et les durs à cuire, quatrième épisode de la fabuleuse épopée du Far West dans les Nuits Magnétiques en 1980.
Nuit magnétique, good evening.
Thank you.
La fabuleuse épopée du Far West. Successives du Far West, on trouve des mineurs, des poseurs de rails, des éleveurs, des cow-boys et des hors-la-loi. The Villain, le hors-la-loi, et les shérifs et marshals qui le poursuivent inlassablement appartiennent de plein droit à cet univers où les âmes généreuses et droites côtoyaient les plus viles. Bizarrement, encore maintenant, l'épopée de l'Ouest est souvent vue au travers des actes de cette minorité de tueurs de sang-froid, des voleurs de grands chemins, élevés au rang de héros par les chroniqueurs, les journalistes à la recherche d'un scoop, les romanciers et ceux qui écrivent pour le cinéma, les bandes dessinées et la télévision. Ces personnes ont donné le petit coup de pouce capable et coupable de grandir ces personnages. Nous vous proposons d'emboîter le pas à ces courageux pourfendeurs de légendes, sans toutefois nier la puissance et la vitalité de ces dernières, ni leur nécessité profonde au sein d'un folklore qui nous incite à compter le nombre d'encoches striant la crosse des revolvers et nous encourage à tirer d'abord et vérifier seulement ensuite si l'on ne s'est pas trompé de cible.
Ce qui est central, finalement, dans la conquête de l'Ouest, dans la notion de frontière, c'est quand même le fait qu'il y avait là des habitants qu'il a fallu chasser, détruire, exterminer.
Élise Marion Strauss.
Pour cette tâche, il a fallu en effet mettre en œuvre beaucoup de moyens, mais le résultat en a été la création d'une tradition aux États-Unis et qui a été une tradition de violence. Et c'est cette violence qui est utilisée dans les bandes dessinées, dans le cinéma, dans le dime novel, mais exaltée comme étant une valeur importante parce que représentant la virilité, l'héroïsme, le dynamisme du pionnier. Bien, derrière tous ces mots, dynamisme, héroïsme, c'est la pure violence qu'il faut voir. Cette pure violence, elle se manifeste dans l'extermination des Indiens, mais aussi dans le combat contre les fameux hors-la-loi. Eh bien, ces hors-la-loi, ils n'étaient que finalement les représentants de la violence ambiante. C'est parce que aussi l'Ouest, c'était l'avance de cette fameuse civilisation, c'est-à-dire la conquête d'une région qui était habitée par d'autres sociétés, donc d'autres institutions, la conquête de cette région par les institutions américaines, c'est-à-dire par la loi américaine. Alors on voit la violence dans ces deux sens. On voit la violence destructrice des bisons, des indiens, des ressources naturelles. On voit la violence de la part de ceux que la loi met en dehors de ses frontières, mais on voit la violence aussi exercée par la loi contre soit les voleurs de chevaux, bien sûr, mais aussi contre les Indiens, et aussi elle appuie par exemple les compagnies de chemin de fer contre les fermiers ou les fermiers contre les éleveurs. Alors finalement, si l'on voulait donner un titre à cette conquête de l'Ouest, eh bien moi je dirais c'est la violence.
Bon, l'Ouest fut une terre de violence, enfin, s'il faut en croire le western, s'il faut en croire les bandes dessinées.
Jean-Louis Rupert.
S'il faut en croire toute une tradition, toute une mythologie. Bon, cette violence était inscrite, c'est vrai, dans ce décor. On peut la classer selon différents thèmes. Par exemple, il y a la violence envers les Indiens, la violence qui s'est manifestée jusqu'à la fin du siècle dernier. Ou par exemple, au Dakota, on paye un scalp indien jusqu'à 200 $. Bon, violence du côté des Blancs. Les guerres qu'on peut appeler les guerres féodales. Les guerres, par exemple, dans les zones d'élevage. On se dispute des terrains. Il y a de véritables petites armées. Un ranch contre l'autre. Dans le Texas oriental, en Arizona. Bon, les éleveurs engagent des chasseurs d'hommes. Il y a la violence entre éleveurs de bétail et les bergers qui arrivent avec les moutons. Il y a la violence qui se développe autour de la question du fil de fer barbelé, les coupeurs de clôture. Il y a la violence qui s'installe dans les villes à peine nées, exemple à San Francisco. Les vigilants de San Francisco, qui en principe sont là pour amener l'ordre, se révèlent être des gangsters et des tueurs à gages parmi les plus remarquables. Il y a la violence contre laquelle on va lutter et on va engager pour cela certains hommes, dont la spécialité va être de porter des revolvers et de se faire obéir. Au niveau d'une commune, on appellera ces hommes des « marshals ». Au niveau d'un comté, on les appellera des « sheriffs ». Qui sont ces gens, « marshals » et « sheriffs » ? Comment devient-on l'un ou l'autre ? Aucune formation particulière. Être adroit, courageux, volontaire, ne pas craindre d'exposer sa vie. Être très bon tireur, tirer très vite. Bon, ça c'est l'image traditionnelle, celle que ça transmise le western. L'homme qui est capable de tirer sur une pièce de 10 cents qu'on lance en l'air, etc. Il faut tirer plus vite que l'autre. Bon, cela a dû correspondre à une réalité, à une vérité. Mais de toute façon, le cadre dans lequel cette violence s'exerçait était moins reluisant et moins coloré que dans les westerns en technicolor ou autres procédés. Bon, cela se traduisait par des meurtres. Meurtres de sang-froid, de part et d'autre. Parce que le marshal ni le shérif ne sont des gens tendres. Il faut opposer à des bandits des gens qui le soient autant qu'eux. Mais la différence, c'est que l'un porte une étoile d'étince agrafée sur son petit gilet et l'autre n'en a pas. Mais on pourrait aisément changer l'étoile, la faire passer de l'autre côté. Bon, alors ces shérifs, ces marshals sont devenus les héros que nous admirons. Bon, en fait, non. Rétablissons les choses. Tuer quelqu'un à 50 mètres avec un colt, c'était difficile. Il faut se rapprocher. Il faut être assez près. Et on tire. Le plus vite qui dégaine, tue. Oui, ça a dû être vrai. Bon. Mais la violence n'a pas été tellement du côté des shérifs et des marshals. Mais c'était la violence interne. Les bagarres, après avoir bu au saloon, autour d'un jeu de cartes. Les rivalités, comme ça, pour des intérêts économiques.
Avance. Tu t'es assez fichu de nous. Laisse ça, toi. Mort ou vif, c'est écrit.
Empêchez le Ben et sa défense.
Heureusement, sans quoi il nous tuerait. C'est bon, puisque vous le voulez, il va avoir sa chance. Tiens, on le délivre.
Ne le laissez pas faire.
Délivre-le. À nous deux. Ce n'est pas un combat loyal. Mes doigts sont morts. Tu y es maintenant, alors quand tu voudras.
Du reste, moi, c'est ce que j'apprécie beaucoup dans les westerns, c'est que ce sont des hommes.
Et Versicrus.
Des vrais. C'est-à-dire qu'il y a une histoire, il y a n'importe quoi, on s'explique toujours face à face. Regardez les duels qu'il y avait. C'était pas extraordinaire, les duels. Deux hommes face à face, armés de la même façon, et le plus rapide gagne. Hein. Et il y en a eu, des comme ça, ça existait, ça. Et des hommes qui se sont trouvés face à face, prêts à tirer. Et c'était bien supérieur au duel qu'on faisait à la française, si vous voulez, où les hommes partaient dos à dos et tentent pas de se retourner et tirer. Même bien souvent, un avait le droit de tirer le premier et l'autre le deuxième. Là, c'était les deux hommes se regardent dans les yeux. Et le premier qui bouge, ça y est. Ils portaient pas plainte, ils allaient pas voir la police. Ils s'expliquaient face à face. C'est un petit peu dommage que ce soit plus comme ça aujourd'hui. Remarquez, c'est aussi bien parce qu'il y aurait des tueries. Mais enfin, disons que l'homme a perdu. Ce qu'on retrouve chez le cow-boy, c'est vraiment l'homme, quoi.
Oui, les carabines parlent, les Winchester parlent, oui, les balles sifflent, etc. D'accord. Mais descendons un peu ces personnages de leur piédestal. Prenons un à un les personnages dont les noms nous sont restés. Un personnage, par exemple, Wild Bill Hickok. Hickok le sauvage. Bill le sauvage. Quel formidable surnom. Bien fait pour inspirer le respect. Qui était-il en réalité ? Pas grand-chose d'intéressant durant la guerre de sécession, un petit peu espion, un petit peu éclaireur, etc. Et qui, comme tant d'autres, se dit « qu'est-ce que je vais faire ? La guerre est finie maintenant, il me faut un travail. » Bon, il arrive dans l'Ouest, dans les villes de bétail, à partir de 1866-67, ces villes commencent à naître, Abilene commence à naître, le chemin de fer y arrive. Alors ici, c'est un climat particulier qui se développe et qui convient fort bien aux qualités d'un homme tel que Hickok. Je parle de Hickok, mais je pourrais parler de quantité d'autres personnages. Si bien que lorsque on essaie de trouver quelqu'un qui, parmi les porteurs de l'étoile de la loi, a été quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pur, quelqu'un de courageux et qui a réellement fait son travail en toute conscience, il est difficile d'en trouver. Pourquoi ? Parce que les chroniques mentent, parce que les chroniques exagèrent, parce que les chroniques, c'est écrit par les journalistes de l'époque, se sont intéressés davantage à ces prétendus marshals ou shérifs qui étaient sur la barrière, vous savez, qui étaient sur la deadline, hein, ils chevauchaient la deadline, c'est la traduction de l'expression américaine, tantôt d'un côté de la loi, tantôt de l'autre. Pour le moment, un Hickok, par exemple, était du côté de la loi. Here is a western we saw last night, full of action and dynamite. We thrilled and nearly stood on our head from the moment the hero walked in and said, I'm Wild Bill Hickok, and I'm brave and strong. I've been riding the range for 6 months long. I've been riding the range around enough cattle. I got so many blisters, I'm tall in the saddle. I am a villain, I'm mean as can be. I hate the hero cause he sings off key. I'm an ornery cots and I'm so full of lead. When a rattlesnake bites me, he drops down dead. Why, chewing on bullets is my daily routine. See what I mean?
Me injured, nice and tan. Me also businessman. Me take them scalps to make them penny. Sell them to man named Jack Benny.
Our story takes place in a lawless town. They've called on Hickok to tame things down. He's just arrived and who should he meet but the no good outlaw Poison Pete.
Pete, I hear you been a-rustling again.
And I blow up the bank and I shot 20 men. I held up the stagecoach and robbed the mail car.
One of these days you're gonna go too far. So you think that you're a pretty good fighter.
You should have seen what I did to Pink Rider.
You mean Red Rider.
No, he changed his name. He got faded last week in a big crap game.
Gimbal, gimbal, gimp, tri-ball.
I think you're a coward, through and through. I'm gonna tell a whole town what I think of you.
Hickok arrive à Abilene, au Kansas. C'est une ville de bétail. Cow Town, comme on dit à l'époque. Et c'est une ville très animée, bien sûr. À propos de l'animation de ces villes de bétail, il faut rappeler ceci. Ces troupeaux arrivent du Texas. Pendant 2 mois de piste, les garçons de 18, 19, 20 ans, 25 ans, qui ont souffert sur la selle, n'ont pas bu un verre et n'ont pas rencontré une femme. Ils ont été payés, ils ont donc, pendant 2 mois, ça fait $30 dans les poches, 3 mois, ça fait $45. Et pendant une saison, autour d'une ville de bétail, on peut estimer environ 200 à 300 cow-boys qui campent sur les pâturages à 5-6 km de la ville. 200 cow-boys avec chacun dans les poches, combien on dit, $50 en gros. Hein. Voyez donc, il y a une sacrée somme. Bon, ils sont là pour combien de temps? 15 jours, 8 jours, le temps pour leur boss de vendre le troupeau. Ils ont de l'argent, plein les poches. Ils ont soif, ils ont besoin de plaisir. Alors évidemment, il y a des soirées où ça chauffe beaucoup dans les saloons à Dodge City ou à Abilene. À Dodge City, les saloons sont de plus en plus importants au fur et à mesure que la ville prend du poids, de l'aisance. À Abilene, souvent les saloons, vous savez, c'est quelque chose de très minable. Bon, alors il faut, pour s'opposer à ces gens, il faut des hommes aussi énergiques qu'eux, aussi déterminés. Pour Abilene, Wild Billy Cock va faire l'affaire. Mais hélas, on ne peut pas le créditer d'autant d'actes de bravoure que ces turiféraires veulent bien l'écrire. Et tout petit détail qui montre bien le caractère du personnage, il craignait surtout pour sa vie. On dirait que c'est bien naturel, mais quand on est marshal et qu'on a prêté serment et qu'on est là pour imposer sa loi à d'autres qui sont prêts à la violer, c'est quand même assez surprenant. Donc pas de notion de sacrifice, pas la moindre. Et lorsqu'il se couche, Hickok passe un certain temps à étendre autour de sa couche des journaux pour ne pas être surpris par l'arrivée inopinée d'un quelconque adversaire. Et sachons aussi que Hickok se rendit célèbre un soir en entendant des pas derrière lui au coin d'une rue et il tira sans voir exactement sur qui il tirait, mais il tira. Or, il se trouvait que c'était son adjoint. C'était quand même un peu pénible et la municipalité de Abilene l'a remercié. Elle a embauché d'autres personnages jusqu'au jour où est arrivé un homme assez tranquille. Beau gars, belle stature, 1m80, un nommé Smith, Tom Smith. Eh bien, les chroniques encore aujourd'hui rendent hommage à Tom Smith, qui a réellement été l'homme de la situation. Un parfait marshal, et il est très difficile, vous savez, si l'on consulte la liste de ces prétendues célébrités qui ont porté l'étoile dans les villes plus ou moins grandes de l'Ouest. Très difficile de trouver quelqu'un qui ait fait son métier honnêtement et qui n'ait pas été préalablement un tueur. Alors, évidemment, il y a toute la bande des Masterson et il y a le fameux White Earp.
Eh bien, Gary Cooper, tout le monde ici vous demande quelque chose. On vous demande d'aller à une fête, on vous demande de participer à un cocktail, on vous demande quantité de choses. Eh bien, moi, je vais vous donner quelque chose. J'ai une surprise pour vous. Cette surprise, c'est une voix. I have a surprise for you. Your voice.
My voice? Well, my singing voice would be a bad surprise for anybody. My own, that is.
Il dit que sa voix, lui chanter, serait peut-être une mauvaise surprise pour tout le monde. Alors j'ai sa voix chantée à lui dans le film Le train sifflera trois fois. Sa voix chantée, qui est Claude Dupuis. Alors, votre voix, Gary Cooper, piano.
Oh, that's different.
Il pense que cette voix, c'est différent.
Si toi aussi tu m'abandonnes, ô mon unique amour, toi, nul ne pourra plus jamais rien, non rien pour moi. Si tu me quittes, plus personne ne comprendra mon désarroi. Et je garderai ma souffrance dans un silence sans espérance, puisque ton cœur ne sera plus là. C'est la cruelle incertitude qui vient hanter ma solitude. Que deviendrais-je dans la vie si tu me fuis? J'ai tant besoin de ta présence, tu restes ma dernière chance. Si tu t'en vas, j'aurai trop peur, peur de ne plus vivre une heure. Si toi aussi tu m'abandonnes, il ne me restera plus rien.
plus rien au monde et plus personne qui me comprenne, qui me soutienne ou qui me donne simplement la main.
Bien, Claude.
Oh, il a suscité tout le vocabulaire français de Gary Cooper à la fois. C'était très joli d'ailleurs de vous voir l'écouter, de vous voir écouter votre voix et de vous voir penser à quantité de choses.
Qui était Monsieur White Earp et qui étaient les Earp? À Tombstone, si vous allez aujourd'hui, vous pourrez au mois d'octobre, très précisément, je crois que c'est vers le 5 ou le 6 octobre, assister à une reconstitution de la fameuse bataille au Cape Coral. Alors, avec tout le cérémonial nécessaire, avec toute la gravité qui convient à la situation, les personnages qui incarnent la famille Earp et ceux qui incarnent les Clancton McLaughlin, leurs adversaires, descendent selon l'itinéraire précis qui a été celui des personnages dans la réalité ancienne. Bon, eh bien autrefois, qu'est-ce que c'était que cette histoire de Hockey Coral? Ni plus ni moins qu'un règlement de compte entre bandes adverses. White Earp n'a jamais été Marshall, il a été simplement Marshall adjoint à Dodge City. En matière de vérité, dans ce qu'il a raconté à son biographe quelque temps avant sa mort, c'était le mensonge systématique. Et pourtant, ce personnage passe aux yeux d'innombrables lecteurs comme le plus grand shérif. Je sais, autrefois, au début, quand je commençais à écrire sur l'Ouest, je me suis trompé. Mais par la suite, les renseignements qui me sont parvenus étaient un peu différents que j'ai trouvés. C'est vrai, autrefois, j'ai écrit que c'était réellement l'homme idéal, le Marshall gigantesque, etc. Parce que je n'avais lu que la biographie d'un nommé Stuart Lake. Et Monsieur Stuart Lake a rencontré Monsieur White Earp à la fin de sa vie, alors qu'il se demandait comment il allait vivre le lendemain. Monsieur Earp habitait à San Francisco. Et Monsieur Earp, depuis des années, cherchait cette occasion de se faire connaître. Et finalement, il l'a rencontré. Et Lake a pris comme parole d'évangile tout ce que l'autre lui a raconté. Et c'est à partir de ce bouquin de Stuart Lake que le scénario de La Poursuite Infernale, ce très beau western de John Ford, a été réalisé. Ce qui ne met pas en cause la qualité du travail de Ford. Ford a fait un western à partir de là, un des plus beaux westerns qui existent. Mais si l'on cherche qui fut réellement ce Earp, que l'on célèbre d'un film à l'autre jusqu'à un règlement de compte à Hockey Coral, on s'aperçoit qu'il ne valait pas très cher. Eh bien, je crois qu'on peut passer en vue nombre de ces gens qui représentaient la loi en principe. Pourtant, il y a eu, vers les années 1910... un nommé Bill Tilghman, qui a été réellement un des derniers grands shérifs de l'Ouest et qui a fait très honnêtement son travail. Par ailleurs, bien sûr, dans cette liste, on voit apparaître les noms le nom de Al Jennings, le plus vieux roublard, le plus parfait roublard qui ait jamais existé, et qui, lui, a copié son attitude sur les premiers westerns qu'il a vus. Vous savez, il a vécu assez vieux. Et M. Garrett. M. Garrett a été évidemment célèbre du jour où il a abattu son vieux copain, le Kid. Mais M. Garrett n'était pas un personnage exemplaire non plus.
Billy, they don't like you to be so free. Camping out all night on the veranda. Walking the streets down by the hacienda. Up to Boot Hill, they'd like dear Seigneur. Billy, don't you turn your back on me. There's mirrors inside the minds of crazy faces, bullet holes and rifles in their cases. There's always one more notch and four more aces. Billy, and you're playing all alone.
Oh. Et ses frères arrivent à Tombstone, à l'époque où on vient justement de découvrir de l'or et de l'argent. Excellent terrain, parce qu'ils n'ont rien fait de sérieux quand ils étaient à Dodge. Il a même fallu qu'ils s'en aillent. Donc ils espèrent qu'ils vont se faire une vie. Ça a été très long à démarrer. En fait, c'est Morgan Earp qui a été nommé Marshall. Et White joueur professionnel en réalité. Vous savez que White, c'était un homme qui, tous les soirs, qui ne faisait rien de ses dix doigts, sauf de manier les cartes. Bon, et parmi la bande de Herp, un personnage curieux, bizarre, singulier, un ex-dentiste nommé Holiday, Doc Holiday. Tuberculeux, venu dans le sud-ouest pour soigner ses poumons, et qui se met à boire, qui s'intéresse beaucoup plus aux tables de jeu et aux filles de saloon. Herp, Holiday vont lier leur destin dans une sombre histoire qui aboutira à cette fusillade de hockey choral. Le juge Roy Bean, un autre personnage que le western a très intelligemment utilisé d'ailleurs, très intelligemment parce que d'abord il faut rendre hommage à Walter Brennan qu'il interprétait dans ce très beau film de William Wyler intitulé Le Cavalier du désert, un des plus grands rôles de westerner de Gary Cooper. Et puis récemment aussi, Paul Newman a incarné le juge Roy Bean dans Juge et hors la loi. Un personnage singulier, tristement singulier, qui appliquait la loi à l'ouest de Pecos, c'est-à-dire qu'il s'estimait le seul représentant de la loi, bien que cabaretier, ex-bandit, ayant failli mourir sur la potence, et qui est resté célèbre par la truculence de ses sentences, mais encore une fois, se méfier de ce genre de témoignage qui relève davantage du folklore que de la vérité.
Allez, Joe, monsieur le juge t'attend.
Bon, alors du côté des juges, oui, nous parlions de Roy Bean, mais il faut citer le nom d'un vrai juge, celui-là, fortement diplômé, qui s'appelait Isaac Charles Parker. Il est président de la Cour fédérale de Fort Smith, dans l'Arkansas. Il a 36 ans, en 1875, lorsqu'il est nommé à ce poste. À cette époque-là, c'est le président Ulysses Grant qui est à la Maison Blanche. Parker restera 21 ans à Fort Smith. Eh bien, il a un record d'échafaud, si on peut dire. Pas mal du tout. Il a envoyé 88 hommes à l'échafaud. Sur 13 000 accusés. La proportion peut sembler minime, mais 88 hommes à son actif, surtout qu'il était très expéditif.
About 6'4" took to fighting. They went and pulled them from the floor.
Toute cette époque a été une époque de violence. Violence à tous les degrés, violence à tous les niveaux, dans toutes sortes de milieux. Aussi bien du côté officiel que du côté individuel. Parmi les représentants de la loi, il faut citer évidemment Pinkerton. Alan Pinkerton, fondateur de l'agence qui porta son nom et qui inspira, avant 1914, je crois, une nombreuse série de bandes dessinées. Alan Pinkerton, né en 1819, nationalité américaine, signe particulier le front bas et barbe, dangereux, très dangereux pour le malfaiteur. En effet, Pinkerton fut d'abord un membre du service secret durant la guerre de sécession entre 1861-1865. Il attira ainsi l'attention du président Lincoln pour la bonne raison qu'il découvrit l'existence d'un complot qui était destiné à assassiner Lincoln. Et au lendemain de la guerre, son agence a pris une importance considérable, si bien que le réseau fondé par Pinkerton vers 1880 recouvrait la totalité du territoire américain. La devise de l'agence Pinkerton était la suivante: nous ne dormons jamais. Et Pinkerton lui-même déclarait: j'ignore le sens du mot échec et ni le ciel ni l'enfer ne peuvent m'influencer lorsque j'ai le droit pour moi.
Il s'est sauvé par là.
Vous êtes blessé?
J'ai pris de la poussière plein les yeux. Tu l'as vu?
Je ne sais pas. Il est sorti par la porte de côté et il courait vite.
Et tu l'as loupé,
bien sûr. J'ai pas pu l'ajuster correctement. Je ne sais pas si je l'ai touché.
Ah, t'en fais pas. C'est ma faute si nous l'avons perdu.
Il s'est pas encore enfui. Alors je serais pas ici. Je l'ai vu. Il est entré dans la taverne de Burdette. Et il y est encore.
Comment le sais-tu?
Mais on voit les deux portes d'ici. Et il n'y en a pas d'autres. J'ai une certaine expérience des tavernes.
Est-ce que tu as pu reconnaître qui c'était?
Non, mais nous le saurons. Il a les bottes pleines de boue, il a sauté dans la flaque près de l'abreuvoir.
Tu crois qu'on va pouvoir le poursuivre à l'intérieur?
Pourquoi pas?
Ce sera difficile. Il y a 8 ou 10 hommes de Burdette là-dedans.
Certainement plus.
Tu vas prendre la porte de derrière, je prends celle de devant.
J'aimerais essayer de...
Tu aimerais essayer quoi?
Je suis toujours passé par la porte de derrière. On m'a jamais laissé passer par devant.
Tu le crois assez fort?
Je voudrais bien le savoir.
Moi aussi. Eh bien, c'est d'accord. Passe par l'entrée principale.
Et les Texas Rangers, un corps de policiers dépendant d'une administration strictement texane, fondée par un colonel en 1835. Des hommes volontaires pour toutes sortes de missions. Les Rangers eurent le mérite d'expérimenter une nouvelle arme, un revolver à barillet, inventé et produit, fabriqué par un nommé Colt. Et ils furent les premiers à démontrer son efficacité et M. Samuel Colt dut aux Texas Rangers une large publicité. Le Texas Rangers était vraiment un homme dévoué au service de la loi qu'il représentait. Pour une quinzaine de dollars par mois, c'était un homme capable de s'en aller pendant un mois, deux mois dans la solitude, traquer patiemment, méticuleusement la piste d'un bandit. Ils agirent quelquefois en groupe. Ils se mirent, il faut bien le dire, au service assez fréquemment des gros capitalistes du bétail. Mais les Texas Rangers, en fait, furent la plus connue de ces milices. La milice locale ou territoriale était inscrite dans la tradition américaine depuis les tout premiers temps de la colonisation.
Aucun héros populaire, réel ou mythique, ne joua jamais son rôle sur une scène aussi grandiose que celle offerte par le Far West aux cowboys. À 80 km à l'ouest de Paris, là où la prairie ondule en vagues d'herbe, se trouve un petit ranch où des cowboys français passent le week-end. Ces cowboys s'appellent des westerners.
Charge. Le colt, vous voyez, le colt est chargé par le côté, et non comme le barrier ne se bascule pas.
Ce sont des vrais colts?
Oui.
Où est-ce que vous avez pu vous procurer des vrais colts?
Ah,
non. Si vous voulez, ce sont des colts de cinéma, c'est-à-dire que le canon est en 45, la sortie du barillet est en 45, et l'entrée du barillet est en 9 mm.
McPerret.
Ce qui vous permet d'utiliser des cartouches à blanc en 9 mm. Alors, une des compétitions, si vous voulez, du westerner, s'appelle le fast draw, c'est-à-dire le tir rapide. Et le tir rapide se fait sur des ballons, ce qui fait qu'une arme chargée à blanc suffit à percer le ballon. Mais ça vous oblige à viser quand même et à tirer très rapidement. Alors, dans les westerns de cinéma, vous avez toujours le cow-boy avec son arme très très basse. Ce qui ne s'est jamais porté pratiquement à l'époque de l'Ouest, puisque, si vous voulez, le fait de porter une arme basse vous empêche de monter à cheval, vous empêche de vous déplacer, parce que si vous avez des armes avec des petits lacets à hauteur des genoux, c'est pas pratique. Disons que le combat de rue, si vous voulez, qu'on voit dans les westerns, n'a pratiquement jamais existé. Il y a eu des assassinats, mais des duels, on peut pas dire que je voudrais pas enlever l'auréole de l'histoire de l'Ouest, mais ça n'a pratiquement jamais existé.
Alors, dans cette pièce, donc, vous avez une longue table, mais aussi, lorsqu'on entre dans cette pièce, on doit passer par des petits gens de porte qui ressemblent beaucoup à des portières de saloon.
Oui, ça, c'est notre petit décor pour nous amuser. Ici, si vous voulez, c'est la grande pièce où nous recevons des clubs, puisqu'il y a des clubs de westerners. Bon, c'est ici qu'on reçoit nos amis belges, deux fois par an, qu'on reçoit nos amis quand on se retrouve et qu'on fait une petite fête, on se retrouve dans cette pièce. En plus, c'est notre pièce d'entraînement.
Vous avez aussi sur le mur le drapeau du Sud pendant la guerre de Sécession. Est-ce que ça veut dire que parmi vous, il y a des sudistes?
Oui, il y en a même beaucoup. On est pratiquement tous sudistes.
Parce qu'en plus d'être cowboy, vous êtes soit sudiste, soit nordiste.
Disons que, si vous voulez, c'est comme ça qu'on débute dans le western. Bon, maintenant, si vous voulez, ça a beaucoup moins d'importance pour nous. Le cheval a pris le dessus. Mais au départ, tout le monde a suivi, si vous voulez, un peu l'histoire de la guerre de Sécession.
Alors, à gauche, effectivement, c'est le saloon.
Oui. Voilà,
même c'est écrit en toutes lettres. C'est le bar, tel qu'on le voit dans le western, avec le grand miroir derrière qu'on casse toujours dès qu'on commence à tirer un peu.
Oui. Oui, oui, ici, si vous voulez, on évite de casser trop, parce que ça coûte trop cher. Et on n'a pas les budgets d'un film. Et en plus, on n'a pas de glace sans sucre. On risque de se faire très mal. Les mouvements, ils sont très simples. Quand vous voulez tirer très vite, il faut d'abord savoir où se trouve votre arme. Autrement dit, il suffit de se placer sur une jambe. Tout le poids doit porter sur la jambe qui porte l'arme, de façon à ce que la crosse, si vous voulez, soit dégagée. Il est évident que si vous restez bien droit, l'arme a tendance à rester dans le prolongement du corps. Et si vous vous penchez sur le côté, la crosse se dégage. Bon, ensuite, quand vous laissez tomber votre bras, avec votre avant-bras, vous touchez la crosse, ce qui fait qu'instinctivement, vous savez où elle est. Bon, ensuite, il suffit de remonter, d'engager et de tirer. Bon, alors maintenant, vous avez deux façons de tirer. Vous avez la façon normale qui est d'armer le chien et d'appuyer sur la gâchette en visant, ce qui vous prend énormément de temps, ou de tirer en fanning. Tirer en fanning, c'est déjà au départ prendre la crosse et appuyer sur la gâchette en même temps. Ce qui fait qu'après, vous n'avez plus qu'à, avec votre autre main, à taper sur le chien, l'armer et vous laisser partir. Voilà.
Vous faites des duels au revolver ici ?
On ne fait jamais de duel. On fait, si vous voulez, des compétitions en mettant des ballons. Vous avez deux ballons, deux personnages, et au top, ils ont une pierre dans la main. Ils lâchent cette pierre et ils prennent leur revolver et ils tirent. Et c'est le premier qui a eu son ballon.
On peut essayer de voir ce que ça donne.
Ah, on peut voir ce que ça donne. On peut même mettre quelqu'un en face. Ce sera plus drôle.
C'est sûr qu'ils sont chargés à blanc.
Ils sont chargés à blanc. C'est si vous voulez. On n'a pas du tout envie de se faire prendre. N'importe comment, c'est Alan qui est en face et je n'ai jamais pu le souffrir. Ça fait 10 ans qu'il est au Montana Ranch et j'ai vraiment un mal fou à le supporter. Alors, ça ne me pose pas de problème pour moi. Alors, quand tu veux.
Je voulais dire qu'une des armes n'était pas chargée.
Celle-ci n'était pas dans le bon sens. Les cartouches étaient après. C'est pratique pour la roulette russe, mais pas pour le western. Dans le commerce se trouvent des armes à poudre noire, qui sont des armes qui n'utilisent pas de cartouches. C'est-à-dire qu'on met dans le barillet directement la poudre et la balle. Et on met une amorce et tout doit partir. Bon, généralement, les gens qui se servent de cela prennent par exemple du papier pour bourrer papier hygiénique que l'on mâche et que l'on met dans la cartouche et que l'on serre. Seulement, le problème, c'est que du papier mouillé, tassé, qui sèche, devient pratiquement un projectile. Et si vous tirez à trois mètres, eh bien vous avez une plaie avec dedans la recherche de tous les petits bouts de papier. Plus la poudre noire qui rentre à l'intérieur de la peau et qui vous fait un tatouage très noir, évidemment, puisque la poudre est noire. C'est, si vous voulez, une forme du western.
Ici, il y a 10 ans, si vous voulez, on est venu au western. Bon, on jouait les cow-boys, on portait le revolver pour faire le fumier, pour monter sur les toits, pour tout. Puis petit à petit, on s'est aperçu que pour monter à cheval, ben, franchement, le revolver, c'est pas pratique. Fait qu'on a laissé tomber le revolver, on y retouche de temps en temps pour s'amuser. La plupart du temps, on s'intéresse plus au cheval qu'autre chose.
La seule chose que je reproche un petit peu aux gens qui ont fait les numéros de cow-boy, surtout les numéros de tir, puisque c'est souvent ce qui revenait, c'est qu'ils sont tous un petit peu déséquilibrés. Dès que les gens ont la passion des armes et des choses comme ça, on les voit, ils sont un petit peu bizarres dans la vie.
Résultat, les westerners sont des débiles. Bon, ici, vous avez devant vous une ceinture d'armes à double main, c'est-à-dire les deux colts. Le problème de cette ceinture est une ceinture de parade, puisque quand on a deux revolvers dans les mains, la main droite est toujours retardée par la main gauche. Autrement dit, si on veut que cette ceinture soit efficace, il faut qu'une arme soit dans un sens, dans le sens où l'on dégaine, et il faut que de l'autre côté, elle soit à l'inverse. Ce qui fait que quand on a tiré ces 6 coups ou 5 coups, si on veut garder une protection, une garantie, on doit pouvoir prendre l'autre et tirer. Ce qui donne une puissance de feu plus importante, mais un encombrement énorme.
Ça, on ne voit jamais dans les westerns.
Si, les doubles mains, c'est ce qu'avaient tous les gens des séries B. Hop Along Cassidy, John Wayne, quand il faisait sa série des 3 mousquetaires, etc. Thank you.
la légende fait que les choses se passent aujourd'hui beaucoup plus magnifiquement qu'elles se passaient autrefois. À Dodge City, on peut visiter, par exemple, un cimetière des bottes, le fameux Boot Hill. Pourquoi le cimetière des bottes? Parce que ces gens qui étaient abattus dans les saloons au cours de fusillade, on ne prenait pas de grandes précautions pour les ensevelir. Une simple caisse de sapin et le vêtement qu'ils portaient, les bottes qu'ils portaient, et voilà, ils étaient enterrés dans un endroit qui servait provisoirement de cimetière. Ordinairement, c'était sur une colline. Du moins, c'est ce que les fouilles ont révélé à Dodge City. Le véritable cimetière des bottes était sur une éminence à quelques distances de Dodge City, d'où le nom de colline des bottes. Être enterré avec ses bottes, c'était évidemment le dernier rêve, la dernière volonté du défunt, en général un cowboy. Aujourd'hui, loin de l'emplacement réel d'autrefois, ces cimetières des bottes ont été reconstitués pour les besoins du tourisme. On y lit des inscriptions curieuses. Par exemple, à Tombstone. Tombstone, vous avez des croix qui ne sont même pas en bois, mais qui sont en tube de fer. Et on a planté, on a cloué, fixé sur ces tubes, sur des planchettes portant des inscriptions. Alors, comme tout est faux, n'est-ce pas? Les inscriptions le sont aussi. Tué par les Indiens, tué par les Apaches, tué dans une bagarre au pistolet, gunfight. Ah, il y a simplement, enfin, je ne sais pas si elle existe toujours, cette stèle, une stèle qui paraît-il est d'époque, une planche au sommet arrondi qui porte le nom des Clanton et des McLaughlin qui furent tués à Okekora. Et parmi ces inscriptions qui se ressemblent toutes, ici, ah, ça c'était un convoyeur qui a été tué par les Apaches. Il y a une inscription qui provoque l'hilarité des touristes. Mort de mort naturelle. À Dodge City, j'ai assisté à la réunion de la chambre de commerce locale. J'étais invité. J'ai même été à cette occasion honoré du titre de marshal honoraire de Dodge City. J'ai les preuves à l'appui. Et à l'ordre du jour figurait la question suivante. Le Boot Hill, le cimetière des bottes, est vraiment trop petit. Étant donné que durant la saison dernière, nous avons eu entre 350 000 et 400 000 visiteurs. Ça ne peut pas durer. Il faut d'abord planter un deuxième arbre des pendus. Parce qu'il y a un arbre magnifique, sec, avec trois cordes qui pendent, des anneaux. Mais vous entrez là, vous traversez un magasin de vente de souvenirs, etc. Et c'est très populaire. Alors je pense, je ne suis pas revenu à Dodge City depuis ce temps-là, je pense que depuis, ils ont rétabli les choses, ils ont accordé au Boot Hill des proportions plus intéressantes au point de vue commercial. La loi, Marshall, Sheriff, encore des personnages de la galerie du western. Je dis bien du western. Bien entendu, ils appartenaient aussi à la galerie de l'ouest. Mais quelle différence entre eux? Parfois assez mince. Tout simplement, c'est que le Marshall et le Sheriff, c'est un personnage qui en général a l'esprit un peu plus large, l'intelligence un peu supérieure à celle du hors-la-loi. L'hors-la-loi, c'est vraiment l'homme qui a un esprit limité, qui n'a pas du tout envie de travailler, qui est arrivé dans l'Ouest parce qu'il a derrière lui un passé de violence, il ne sait pas faire autre chose, et il pense que, grâce à la violence, grâce à son habileté professionnelle, si on peut dire, il va pouvoir tirer profit d'une situation qui offre réellement toutes les possibilités. Le malheur, c'est que ce hors-la-loi va être bientôt promu au rang de héros national. Enfin, je dis bientôt, en l'espace de quelques années. Il suffit qu'un hors-la-loi se déclare, attire l'attention des journaux, on parle de lui, il impressionne les populations, il devient vite le héros, celui avec lequel on va prendre parfois des gants. Même les shérifs et les marshals vont prendre des gants. Et pourtant, qui est-il en réalité? Comme je le disais tout à l'heure, un homme à l'esprit assez limité, qui n'avait pas choisi de travailler. C'est un homme qui est né actif et qui ne redoute pas une journée passée à l'extérieur. Mais il existait une troisième voie, une voie assez rude et semi-légale pour empocher des dollars. On pouvait tuer les bisons. Mais seuls les Indiens n'étaient pas d'accord pour cela. Mais qui s'inquiétait des Indiens? Et le tueur? Le tueur, c'est un homme qui a souvent débuté dans une profession de chasseur, en particulier de bison, et qui va mettre son adresse, son expérience au service de ceux qui le paieront. Ainsi, on voit naître le chasseur de primes, le chasseur d'hommes. C'est un traqueur, celui-ci. C'est un chasseur qui traque le gibier humain et qui n'a aucun scrupule à l'abattre là où il peut le prendre.
La prime est pour moi seul.
Vous n'aurez jamais la conscience en paix. Il ne sera jamais mort pour vous.
Ça m'est égal, il ne m'intéresse pas. Il n'y a que l'argent qui m'intéresse. C'est la seule chose qui m'ait jamais intéressé. Oh, il s'en était rendu compte quand il m'a dit « C'est pour ça que tu es là. Je le reconnais. Si j'étais là, ce n'était que dans ce but. » Ça ne correspond peut-être pas à l'idée que vous vous faisiez de moi, mais c'est ainsi.
Alors si vous tenez à ce qu'il en soit ainsi, je vous accompagne. Je vous suivrai jusqu'au bout.
Oh, je le ramène.
Je le sais.
Je vous épouserai. J'irai où vous irez, je vivrai même avec vous sur les terres que vous aurez rachetées avec l'argent de la prime. Que voulez-vous de plus?
Pourquoi? Dites-moi pourquoi. J'en ai fait le serment, je le ramènerai. Et je vais aller le livrer pour de l'argent.
Comment se fait-il que ces gens aient bénéficié d'une telle publicité? Il faut établir des degrés entre eux, bien sûr. On a vu récemment un western intitulé The Long Riders, qui nous a montré que les James étaient des garçons bien tranquilles, en fait, et qui, s'ils se sont conduits comme la légende le dit, c'est qu'ils avaient des raisons. C'est encore une fois enfourcher le vieux dada du pauvre garçon qui tourne mal et ce n'est pas de sa faute s'il est devenu hors-la-loi, c'est que les circonstances familiales, la société, les événements de l'époque ont voulu qu'il franchisse la barrière pour retomber du mauvais côté. Il y a toute une histoire à raconter au sujet des James. Jess et Frank James. C'était des garçons qui avaient débuté dans une époque troublée, la guerre de sécession, qui était sudiste, parce qu'à ce moment-là, au Kansas et au Missouri, on était sudiste. Et qui se sont engagés dans des coups faits au nom de...